C'est l'ancien. Vous connaissez la voix, on n'est toujours pas mort. On a toujours ce café, ce stylo, ce micro. On aurait pu en faire un refrain à une certaine époque. C'est un simple premier audio, premier article de ce petit blog que je présente en même temps. Ça fait un moment que j'ai envie de sortir ma tête du parfum, j'en peux plus. C'est pas toujours facile. L'industrie ne nous encourage pas dans le sens où ça ne nous motive pas de parler de parfum parce que c'est un peu dramatique, mais bref, c'est un autre sujet. Je vais faire une espèce d'introduction. J'ai envie de dire cet audio, cet article servent d'intro tout simplement. C'est pas un podcast, c'est pas publié sur les plateformes. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'écouter une autre parole, un autre narratif de ce qu'on leur raconte un peu partout. Je suis quelqu'un qui a quand même voyagé, qui n'est pas assis au milieu du bourbier en Occident. Il y a 25 ans, j'ai préféré dégager avec ma famille. Je vais partir sur le déclencheur de cet article. Pendant un moment, vraiment, j'avais envie d'ouvrir un autre blog, un truc. Le Zen, pareil. On avait envie de raconter autre chose, parler un peu plus de ce qui nous concerne individuellement, ce qui nous émeut. Et voilà. C'est parti. Et je voulais évoquer un truc qui s'est passé il y a un moment, mais j'ai voulu revenir dessus parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé. Un jour, je regardais un clip de Master Ace qui s'appelle PPE, donc Poor People Everywhere, c'est ça que ça veut dire. Et alors, moi, je suis quelqu'un qui a donné des années au rap. Au moins une décennie, même plus, je dirais. J'ai carbonisé ma vie dans les studios, à l'écriture, à la compo, au mix, à la prod. Et donc, c'est quelque chose qui vibre en moi, et en tout cas qui a été un feu incandescent en moi, d'accord, pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai décidé de tout plaquer. Je suis parti, j'ai pris ma femme, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on a décidé de foutre le camp. Quand je vois Master Ace, c'est pas n'importe quoi qui se passe en moi. C'est quelqu'un que j'ai toujours considéré comme un grand, entre guillemets, d'accord, dans le sens de l'ancien, mais aussi dans le sens artistique du terme. C'est un vrai grand rappeur. Il a une histoire colossale, et ça rejoint donc un espèce de champ musical dans lequel moi j'ai toujours fonctionné, avec des références, des groupes, des artistes que j'ai vraiment aimés dans ma vie. Ça va de, je sais pas moi, Public Enemy, N.W.A. Il y en a plein, Sean Price, donc Master Ace, Special Ed, RBX, Compton's Most Wanted, Digital Underground bien sûr. Donc, quand je vois un clip d'un type comme Master Ace, c'est assez étonnant d'abord parce que le morceau dont je parle, il est sorti en 2024, et donc Master Ace avait 58 ans. Les anciens du rap comme moi savent à quel point c'est étonnant. Parce que, à notre époque, notre génération, c'est une chose impossible. D'ailleurs, lui-même le disait dans une interview que j'avais vue, je crois que c'est dans People's Party, donc un podcast de Talib Kweli, où il disait que vraiment, lui, à son époque, c'était inconcevable. Il disait qu'il y avait eu l'annonce d'un anniversaire de Chuck D, donc de Public Enemy. Alors, il me semble qu'il fêtait ses 30 ans. Je pense que c'est 30 ans. Et il disait, mais lui, à 30 ans, mais il ne sera pas dans le rap. C'est quoi ça, tu vois? Voilà. Aujourd'hui, il a 58 ans, il sort des albums. C'est vraiment étonnant pour nous. Ceci dit, évidemment, toute cette époque-là a vieilli. Beaucoup sont décédés. Je venais de citer Sean Price, il est décédé. Digital Underground, Chuck D, il est décédé, etc. Il y en a plein, quoi. Eazy-E est décédé entre-temps, on était déjà très jeune. Donc, voir un clip de cette personne-là, c'est assez étonnant en soi. Et ensuite, pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est pas à cause de son âge. Après, on n'a pas rajeuni non plus, hein. Je ne porte pas mon surnom pour rien. Mais c'est la thématique du morceau. Poor people everywhere. D'abord, ça, cette espèce de déclaration, ça fait écho chez moi. J'y reviendrai. Mais moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est à quel point les États-Unis, et bien sûr par extension l'Occident, n'ont pas bougé pendant toutes ces années. Rien n'a changé. Moi, ça m'a fait une espèce de résonance et j'ai voyagé en 90 où j'écoutais The Ghetto de Too Short. C'est la même chose. C'est un morceau qui m'avait beaucoup frappé, vraiment, qui m'avait ému. The Ghetto, c'est un grand classique du rap, particulièrement de la côte ouest. Là, je vis la même chose. J'ai vraiment eu des larmes qui ont coulé quand j'ai vu ce clip, quand j'ai entendu ces paroles de PPE de Master Ace. Comment on peut être toujours à ce point de 90 à 2024? Je sais pas si les gens se rendent compte, 34 ans. C'est une chose absolument incroyable. Master Ace, c'est quelqu'un qui est très mature. À 58 ans, on n'est pas un gamin. C'est un sujet probablement qui touche sa sensibilité. On est très sensible quand on vit, très sensible. Et c'est la raison pour laquelle ça fait écho chez moi, parce que ça me touche énormément. Ce constat qu'il fait, c'est un constat local, même si, entre les lignes, on comprend que sa vision à l'international joue sur sa compréhension en 2024, ce qui est logique. Et pourquoi je parle de Too Short et du morceau de Ghetto, c'est parce que c'est un constat qui est à mon échelle. C'est mon époque, tout ça. Mais on pourrait se dire, mais depuis le fameux livre La prochaine fois, le feu de James Baldwin, jusqu'au morceau de Ghetto de Too Short, qu'est-ce qui avait changé en fait? À part l'arrivée du crack, c'est loin d'être positif. C'est pas signe d'un bon changement. Et ensuite, on en arrive à PPE de Master Ace. C'est vraiment affligeant en fait. Ce genre de société qui revendique la supériorité, autant utiliser les mots les plus forts, les plus symboliques, sont en échec total. Et moi, là où ça me parle, où ça me fait me réagir, en fait, c'est le titre. Poor people everywhere. Et ensuite, on va s'arrêter déjà là-dessus. La pauvreté est-elle la même partout? Alors, quand on se place sur un simple constat économique, oui, un pauvre est un pauvre, peu importe le niveau de son pays. Ce qu'il va vivre en tant que pauvre, c'est à peu près, bien sûr, les mêmes épreuves. Il est pauvre, il n'a pas accès à cette richesse, au confort, tout simplement, à la facilité de vie. Mais la pauvreté n'est pas la même partout. Parce que il y a des pauvres qui ne sont pas pauvres. Et quand je vois la pauvreté qu'il y a en Occident, ça n'est pas la même pauvreté qu'il y a en Afrique, vu que c'est là où je m'assois. C'est pas du tout la même pauvreté. Je reprends ce petit café. Parce que il y a un problème social derrière et surtout, il y a un problème culturel. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'allais à l'école donc de Créteil à Paris. Je faisais mon premier changement à République, un court changement d'ailleurs. Enfin, pas le changement n'était pas court, l'escale était dure. Mais je faisais, il me semble, une seule station. Après, je descendais à Goncourt. Vraiment, c'est pas une époque que j'ai oubliée parce que d'abord, en tant que banlieusard, on n'aime pas aller à Paris. En banlieue, on n'aime pas Paris. En tout cas, en banlieue, on n'aimait pas Paris. Je sais pas à l'heure actuelle, j'en ai un peu rien à foutre d'ailleurs. Donc, c'est un autre monde auquel j'ai été confronté. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'une certaine réalité brutale de la banlieue s'appliquait aussi à Paris. Paris, c'est quoi pour nous? Paris, c'est les policiers polis. Le choc, le premier choc qu'on se prend quand on est en banlieue, c'est la police. Il ne faut pas oublier ça. La police, c'est l'horreur de la République. C'est l'image d'un pays pour ses habitants. La répression, le racisme, l'injustice. Et toujours ce mot qui revient, la brutalité. Quand on arrive à Paris, les policiers sont polis. Et de manière générale, on n'a jamais eu, moi, j'ai jamais eu de problème avec des policiers sur Paris. Oui, monsieur, oui, c'est là-bas. Les mecs sont entraînés. Je ne sais pas où ils sont formatés, mais ce n'est pas le même format qu'en banlieue. En tout cas, avant. Ça, c'est une chose. Donc, pour nous, sur Paris, tout brille un peu. Les Champs-Élysées, ou même si on faisait les cons là-bas, c'est les Champs-Élysées quand même. Il y a l'aura parisienne, on va dire, voilà, pour résumer la chose. Paris est une vitrine. Mais les produits qu'on vend derrière la vitrine, c'est compliqué. Donc le choc que j'ai eu, moi, c'est mon changement à République. Quand je descendais du métro à République, déjà sur la ligne 8, un peu, mais aussi, surtout, quand je passais sur d'autres quais et qu'il y avait des camés. Les camés étaient là, ils dormaient sur les sièges. Ils se défonçaient, il y avait des seringues. On est dans le métro, c'est la RATP, les années 90. On n'est même pas dans les années 80. Je parle même pas des SDF, en hiver particulièrement, parce que bah, RATP, évidemment, ils n'avaient pas les foutre dehors. C'est une vision, en fait, j'ai envie de dire, qui nous fait comprendre que non, ce que tu vis en banlieue, c'est peut-être un peu plus concentré seulement parce que vous êtes tous ensemble là-bas. C'est la ghettoisation, c'est pas autre chose de toute façon. Hein. Voilà. Mais quand tu vas sur Paris, en fait, il se passe la même chose à certaines heures. Et donc, quand le début de l'abondance, le rush, arrive sur la RATP, il reste encore des traces. Il y a des choses que tu vas croiser si tu es quelqu'un qui part très tôt. Cette réflexion vraiment sur la pauvreté. On est obligé de comparer l'Occident et le reste du monde, parce que moi je parle de l'Afrique, mais le reste du monde est concerné de toute façon. Le narratif occidental, souvent d'ailleurs illustré par des vidéos de petits Africains affamés avec des gros ventres, comme on l'a vécu nous dans les années 90 avec le mensonge autour de la Somalie. Les quêtes de riz qui n'aboutissaient pas. On a tous amené du riz à une certaine époque et une campagne, il fallait amener du riz à l'école pour les pauvres en Somalie. Alors, on se demande où est passé le riz, évidemment, mais c'est pas grave. C'est un regard entretenu sur l'Afrique avec plusieurs buts en fait derrière. La première chose, c'est de vous faire comprendre que vous n'êtes pas à plaindre. Et c'est un peu le discours de Master Ace. Les pauvres sont partout. C'est pas que chez nous. On n'est pas les plus mal logés. Je suis habillé, j'ai un logement, je mange. Et regardez, avec en arrière-plan, donc cette notion d'image véhiculée, merci Bolloré, de l'Afrique, regardez, on n'est pas les plus à plaindre en Amérique, ou bien en France et dans le reste de l'Occident. Pourtant, la pauvreté est endémique en Occident. Quand je dis tout short jusqu'à Master Ace, c'est pas juste que ça ne s'est pas amélioré, c'est ça s'est aggravé. Et en France, c'est encore plus parlant. Parce que quand on croise des mecs en costard faire les poubelles, c'est compliqué. on se dit, mais c'est pas normalement le profil qui fait les poubelles. C'est ces fameux SDF qui étaient sur les quais, normalement. Quand je suis parti pour le Mali, avec ma famille, il y avait des gens qui venaient nous voir en disant, oh, tu sais, fais gaffe, l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est sale, les Noirs, ceci, cela. Mais moi, je vais poser une simple question. Les SDF, là, sur le quai de la ligne 8, là, ils étaient propres? Les connards, là, qui partaient en costard, et je parle des années 90, hein, on n'est pas en train de dire qu'ils font les poubelles, en costard, ils partent au taf avec leur petite mallette, ils ont jamais connu l'existence du savon? Ils sont propres? Faut arrêter de mentir, en fait. La pauvreté est partout, comme le dit le titre, mais ce n'est pas la même. C'est pas la même. La vraie pauvreté en France, c'est la disparition de toute forme de culture. On est en train de tuer toute forme de culture. On ne veut pas de culture. Et ça rejoint, je vous laisse trouver ça sur Internet, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ça rejoint la colonisation. La colonisation française était dogmatique. Ce qu'on est en train de réciter aujourd'hui sur les médias Bolloré, c'est de l'ordre du dogme. Les autres sont inférieurs, nous sommes supérieurs. Alors que la colonisation britannique était plutôt pragmatique. Donnez-nous vos richesses, faites ce que vous voulez. On ne sera jamais indien, pakistanais, et on n'en a rien à foutre, on veut juste l'oseille. Mais les Français voulaient tuer la culture, là où ils mettaient les pieds. Il n'y a qu'à voir l'Algérie, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc quand on en est là, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui on veut tuer toute forme de culture. On veut tuer la religion de l'autre. Il faut arrêter de mentir sur la laïcité. C'est l'islam qu'on veut assassiner. Et pourquoi tout ça? La culture, c'est le rempart à ce capitalisme prédateur. Quand j'ai une culture, c'est-à-dire une noblesse d'âme, je ne mise pas ma vie pour acheter une paire de Balenciaga. Je ne meurs pas dans mon âme si je n'ai pas réussi à avoir le dernier iPhone. Je ne me jette pas dans des crédits à la consommation pour paraître. On a d'autres valeurs quand on a une culture, quand on a une religion. La culture, tout simplement, c'est l'origine. Et l'origine, c'est la noblesse. Il faut dire les choses comme elles sont. Vraiment, lorsque j'ai mis mes pieds ici au Mali, c'est pas la première fois que je venais en Afrique, mais je ne suis jamais resté aussi longtemps, évidemment. C'est pas dans un court séjour qu'on comprend, qu'on connaît. On voit seulement, mais on n'est pas en mesure de digérer et de faire un constat. Moi, quand j'ai mis les pieds avec ma famille au Mali, avec tout ce qu'on nous avait raconté, évidemment, mais bon, c'est des réflexions que j'attendais, puisque voilà, la France raciste, on la fréquente parfois sans le vouloir. J'avais mon équipe dans ma famille, je dirais rien d'autre. Et en bon blanc, quoi, je suis arrivé ici, malgré que je ne sois pas disposé à tout ce racisme, mais il y a des réactions réflexes. Très honnêtement, c'est ici que j'ai appris certaines richesses de l'âme et que je n'ai découvert qu'ici. Le souci de l'autre, pour moi, le souci de l'autre, c'est quelque chose que je n'ai vécu qu'ici. Quand je dis ici, c'est ailleurs qu'en France, ailleurs qu'en Occident. Et avec ces réactions de bon blanc, c'est pour ça que je dis ça, quand dans la rue, on me demandait si j'avais besoin de quelque chose, de manière très sincère. Mais moi, forcément, j'avais cette méfiance en moi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent. Ça, c'est vraiment le truc qu'on pense tous en arrivant. Et en plus, ça me fait penser à cette inversion, finalement, que je vivais, parce que moi, quand je demandais l'heure aux gens dans la rue ou sur le quai de la ligne 8, les gens s'enfuyaient. Ça, c'est la même réaction. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut me voler ma montre. Ça, c'est le classique. J'avais ce comportement ici au début. Jusqu'à comprendre que non. C'est parce que ces gens-là sont riches intérieurement. Ils n'ont pas ces barrières que nous avons en France. On a été formatés comme ça. Mais ici, ils ont été formatés par leur culture, leur éducation, leur religion. C'est ça la richesse. Et c'est pour ça que je dis, la pauvreté n'est pas la même partout. Pendant qu'ils s'enfoncent dans les drogues, partout, les fentanyls, je ne sais même plus comment ça s'appelle, tous ces trucs-là, il n'y a pas ça ici. Tu ne peux pas marcher et trouver des seringues, même dans les quartiers les plus difficiles. Les spots de camé, des crackheads, ça n'existe pas ici. Et si ça existe, parce qu'il y a des drogues et des drogués, c'est obligatoire, on ne les voit pas. On ne va pas tomber sur eux. Parce que ce n'est pas une réalité sociale. Point. Donc, jeter la pierre sur les autres, c'est pour ça que je dis que c'est dogmatique, c'est un peu pour montrer aux autres, non, ne vous plaignez pas, c'est pire ailleurs. Et toutes ces valeurs culturelles dont je parle ne sont pas éteintes en France. Vous partez dans certaines régions, j'étais comme ça, la Corse, des régions comme ça que je jette vraiment au pif, y a des valeurs qui sont encore là. Mais elles sont étouffées, réprimandées médiatiquement. On ne vous donne pas la parole. Parce que tout ce que vous pourrez dire sera une attaque contre le slogan républicain, le narratif gouvernemental. La France, là où elle est aujourd'hui, elle est là où elle devait aller, de un, et où elle veut aller, de deux. Je ne parle pas de la masse, mais la masse, on n'en a rien à foutre en France. Comme disait le Zen, la seule personne qui déteste les Français plus que toi, c'est Macron. Vraiment, c'est une punchline de malade. Je suis obligé de la sortir, celle-là. Oui, bon, déjà, je déteste pas les Français. Je déteste la France. Et je déteste les Français qui me détestent. Le mal qu'on m'a fait ici, au Mali, via l'ambassade de France, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vécu. Donc je leur dédie cette petite phrase, deux points, allez vous faire enculer. Je pense que la culture, c'est la dignité. Comme je l'ai dit, c'est une résistance à ce capitalisme abrasif, prédateur, violent. Il y a des couches sociales, ça peut se renvoyer aux États-Unis, mais en France aussi, où on nous a formaté une fois de plus au consumérisme. C'est injecté en intraveineuse. Vous êtes pauvre, consommez. Il vous faut cette paire de Balenciaga. Sinon, vous êtes personne. C'est ce qui montre. C'est ce qui montre même qu'il n'y a plus de culture. Parce que si moi j'ai de la culture, tu ne pourras pas me dire que je suis personne. Tout simplement. Et la décadence de l'Occident n'est que le résultat de tout ça. Quand je vois ces images de PPE là, ou même de The Ghetto, puisque de toute façon c'est du pareil au même, c'est affligeant. C'est affligeant. Et pour répondre à ce Master Ace, vraiment, je lui conseille de dégager. Il a une carrière, il a ci, il a ça. Hein. C'est très naïf de dire ça, mais je conseille plutôt aux autres, disons, à ceux qui croient à ce narratif, voyager. Quand je dis voyager, ce n'est pas la peine de partir deux semaines dans un club med, je ne sais même pas si ça existe toujours, mais voyager. Prenez votre gourde, vos sandales, barrez-vous. Vous ne voudrez plus jamais revenir. Quand vous aurez appris à connaître les gens, j'en place une pour Faisal, à qui j'avais discuté avec lui sur WhatsApp, et il disait qu'il me semble qu'il parlait de, je peux me tromper, du Vietnam ou du Cambodge, j'ai un peu oublié, peut-être même du Laos. Il disait qu'il avait rencontré un vieux qui l'avait bouleversé. Qui l'avait bouleversé. Parce qu'il avait tellement d'humanité, tellement il était touchant de sincérité, que ça l'a marqué à vie. C'est de ça que les gens ont besoin. C'est cette gifle-là dont ils ont besoin en Europe, aux États-Unis, en Occident. Vous devez voir la vie de vos propres yeux. Le narratif dans lequel vous baignez là, rien n'est vrai. C'est juste pour noyer le poisson. Ouvrez les yeux, ne serait-ce chez vous, pour comprendre que, ouais, ils disent ça, mais la merde n'a pas changé et la merde a empiré. On avait les merdes jusqu'aux chevilles, maintenant là jusqu'au cou. Les prochains, c'est vous. Et personne ne vous pleurera. Personne. Je suis parti, à aucun moment dans ma vie, j'ai regretté. Je n'ai fait qu'apprendre, apprendre, apprendre, m'enrichir. Malgré les moments difficiles, on en a chié. Mais pourquoi rentrer? Pour en chier dans un monde pire? Pour en chier dans un monde où on va nous enterrer vivants? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ici, j'ai des gens que je peux considérer être mes frères. L'AES, ici aujourd'hui, qu'on qualifie de dictature, on appelle junte, mais on n'appelle pas junte les autres coups d'État qui étaient téléguidés par la France, c'est le plus grand symbole de liberté vu depuis Thomas Sankara, Lumumba, Cabral. Ce qu'on vit ici, c'est historique. Vous voulez que moi j'abandonne ça pour rejoindre la poubelle dans laquelle vous vivez là-bas? Merci, mais non merci. Ça suffit, je pense. Wow, je suis presque à 30 minutes d'audio. Ce sera jamais aussi long. Hein. Là, c'est vraiment introductif. Vraiment, rejoignez mon petit blog, lauriens.com. Si vous êtes intéressé, je n'ai pas la prétention d'intéresser les gens, mais c'est là-dessus que, en tout cas, ceux qui veulent me connaître me connaîtront le mieux. Je vais balancer tout ce que j'ai envie de balancer. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. La vie, c'est pas que le parfum. Le parfum, c'est sympa, c'est bien. Ça reste une passion, malgré la chute de motivation qu'on connaît depuis au moins 4 saisons. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Et moi, je vais m'amuser à déconstruire ce narratif qu'on a bâti autour de la masse en Occident. Je vais vous raconter ma vie pour que vous puissiez comprendre qu'il existe une autre vie. Pour que vous compreniez que si le bonheur existe, il n'est pas conçu des mêmes matériaux. On est dans l'artisanat, on n'est pas dans le mainstream. On est dans le fait main, on n'est pas dans l'industrie. Et surtout, on est dans l'histoire, mais on n'est pas dans le storytelling. Je vais juste finir là-dessus. L'Occident représente quel pourcentage dans le monde? Pourtant, ils se disent être la norme. Et réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Le Pakistan n'est pas la France. La Russie n'est pas la France. La Chine. Je parlais du Laos. Chaque pays d'Afrique, ils sont différents entre eux. L'Amérique du Sud n'est pas les États-Unis. Ce qu'on vit en Europe, en Occident, on ne le vit pas ailleurs et on ne le comprend pas. Et ce n'est pas du tout la norme, mais plutôt son inverse. Donc tout ça, il faut y réfléchir.